moi, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, aujourd'hui donc nous revenons un petit peu à des livres que nous avons aimés, nous représentants de l'association Littéra, pour essayer de vous les faire découvrir. Aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre d'Éric Fotorino, 17 ans, paru chez Gallimard en 2018. Éric Fotorino, un journaliste très connu dans le monde de la presse, qui a dirigé le journal Le Monde, qui a lancé le journal Le 1. Il a participé aussi au lancement de la revue America. Et il est aussi écrivain. Il a écrit beaucoup de romans, des essais, des essais politiques parfois, quelque chose comme entre 30 et 40. Il a été enseignant à Sciences Po Paris. Il a 4 filles, dont une est écrivaine. C'est dans sa famille en général qu'il prend le sujet de ses livres et en particulier dans son enfance. Il a écrit 2 livres sur ce qu'il appelle ses deux pères. Son père biologique, l'homme qui m'aimait tout bas. Ça c'était son père d'adoption, pardon, un pied noir de Tunisie. Et puis son père biologique, le marcheur de Fès, un juif marocain. Avec son dernier livre, 17 ans, il va partir sur les traces de sa mère. Alors j'ai décidé de vous faire plutôt une lecture du premier chapitre, des extraits du premier chapitre, pour vous donner une idée de ce qu'est le livre, parce que ce premier chapitre est absolument essentiel pour comprendre le livre, et j'espère vous donner l'envie de lire la suite. Un dimanche de décembre, ma mère nous a invités à déjeuner chez elle. Ses 3 fils, nos compagnes, notre ribambelle d'enfants. Je n'étais plus revenue ici depuis la mort de papa. Depuis la fin des temps. Je n'ai jamais aimé cette maison. Mes parents l'avaient acquise au début des années 80, peu avant leur rupture. Un achat bizarre et même incompréhensible. La vaine poursuite d'un rêve bucolique. Ils disaient que la future voie rapide mettrait La Rochelle à 20 minutes, que la circulation serait déviée, qu'on n'entendrait plus la rumeur de la nationale, le chassé-croisé des camions, tard dans la nuit. Je suis arrivée le premier avec Sylvie, et Apolline, notre fille de 11 ans. Théo était resté à Bordeaux, un tournoi de foot avec les poussins des Girondins. En me penchant pour embrasser ma mère, j'ai trouvé qu'elle était plus petite qu'avant. À force de la voir si peu, elle prenait moins de place sur la terre. Dès qu'ils nous ont aperçus, ces 2 chats ont filé au jardin. La preuve de sa solitude, c'était ses chats. Nul autre qu'elle ne pouvait les caresser. Une boule de poils noirs et une autre tigrée, un feu follet. Que savais-je de l'esprit de maman? Quand je la voyais, je retombais dans un marécage de tristesse et de mélancolie. Mes peurs revenaient malgré moi, éternel gamin inquiet d'être oublié à la sortie de l'école. Tout exaspérait ma mère. La vie qui lui avait échappé, ses espoirs déçus, ses désirs inassouvis, les œuvres qu'elle n'avait pas créées, les occasions perdues, sa solitude à crever. Elle s'agaçait de son âge, du fait qu'il était trop tard pour recommencer à zéro, qu'il était trop tard pour tout, et d'abord pour être heureuse, en paix avec elle-même, avec les ombres et les morts, avec les vivants aussi. On s'est retrouvés au complet. Dès l'entrée, d'une voix qu'elle voulait enjouer, notre mère nous lança qu'après le repas, elle entendait nous parler à nous seuls, ces garçons. On s'est regardé stupéfait. Sylvie a donné le change en proposant d'emmener tout le monde dans la Venise verte pour une balade en barque. Les couleurs de fin d'automne étaient splendides sur les canaux. Un frisson glacé m'a parcouru de la moelle épinière au sommet du crâne. Mon cœur s'est mis à tambouriner comme s'il avait voulu partir à toutes jambes. En un quart de seconde, j'ai pensé que ma mère était malade. Ou qu'à bientôt 75 ans, elle avait choisi de mourir dans la dignité selon un protocole établi en Suisse ou dans un pays nordique, elle qui détestait le froid. C'était ça, elle allait nous annoncer la date de sa mort. François a voulu plaisanter en lui demandant si elle avait gagné au loto. Mais sa voix sonnait faux. Jean sifflotait entre ses dents, signe de sa nervosité avec les mouvements frénétiques de son pied droit. « Ça sera rapide, » dit maman, croyant couper court à la panique muette qu'elle avait provoquée. Elle a servi son crumble aux framboises décongelées avec un sourire que je savais forcé. On s'est dépêché de boire le café, puis Sylvie a donné le signal du départ aux belles-sœurs et aux enfants. Maman s'est assise au bout de la table, le buste droit, les coudes plantés devant elle. Mes frères se sont rapprochés. D'instinct, je me suis tenue à l'écart, le plus loin possible des mots qu'elle allait prononcer. Curieusement, c'est moi qui avais la gorge sèche. Avant même qu'elle se lance, le corps de maman s'est mis à trembler. Jean lui a pris une main, François l'autre. Il a fallu quelques minutes à notre mère pour qu'elle retrouve son calme. Ses lèvres, son menton, sa mâchoire, plus rien ne lui obéissait. Un mouvement irrépressible hachait sa voix. Je me suis rencognée sur ma chaise. Je tremblais aussi, mais de l'intérieur, toujours infirme à montrer mes sentiments dès qu'il s'agissait de maman. Une maladie infantile. La rougeole, les oreillons, les rhinopharyngites en rafale, je m'étais sortie de tout. Pas de l'éloignement. Un désamour tenace envers cette petite femme que j'avais longtemps appelée par son prénom, Lina. 10 fois par jour, j'oubliais que j'étais son fils. Et autant de fois, je m'efforçais de m'en souvenir. Ne m'interrompez pas. Elle cherchait sa respiration. Pour qu'elle soit si pâle, son sang avait dû geler dans ses veines. Le 10 janvier 1963, elle a recommencé comme on se redonne de l'élan. Le 10 janvier 1963, j'ai mis au monde une petite fille. On me l'a enlevée aussitôt. Je n'ai pas pu la serrer contre moi. Je ne me souviens même pas de l'avoir vue, d'avoir vu d'elle le moindre détail. Elle n'est pas rentrée dans mes yeux. Maman s'est arrêtée encore, a fermé les yeux justement à la recherche d'un visage qui se dérobait, les a rouverts. Je n'ai gardé de cette petite aucune image, rien qu'un vide immense, irréparable et désespérant. Je pourrais douter que ce moment a vraiment existé. La seule chose qui m'est restée, c'est la violence. Chaque phrase était un arrachement, une souffrance emplie de soupirs, de silences. On s'est observé, mes frères et moi, guettant sur nos visages l'effet de cette annonce insensée. Notre mère ne nous a pas laissé le temps de réfléchir. Il fallait l'écouter, écouter sa douleur, ses paroles qui faisaient irruption dans la salle à manger par-dessus la paella refroidie. Elle a repris d'un ton moins heurté. Les couleurs lui revenaient. François et Jean l'encourageaient du regard. Le mien flottait loin. J'avais honte de vous raconter cette histoire. J'en ai tellement entendu. Je l'entends encore, ma mère, fille des rues. Traînée, putain. Oui, je plaisais aux garçons. Oui, je cédais. J'avais besoin de me sentir aimée, juste aimée. Quand on est transparente pour sa mère, on veut être aimée. Même quelques minutes. On habite complètement le corps de l'autre. Il devient notre seul domicile fixe. On se colle à lui, on s'accroche à un mot, à un geste gentil. On mendie la chaleur d'une peau, une main rassurante, une présence. Ça ne valait pas grand-chose. Mais c'était mieux que rien. Les yeux mi-clos, elle poursuivait son récit sans trébucher. J'avais rencontré un étudiant, c'était 2 ans après Moshe, le père d'Éric. Ton père juif de Fès, a-t-elle ajouté en me fixant. Lui aussi venait du Maroc. Vous allez dire encore? Oui, encore. Un arabe cette fois. Ce n'était pas l'amour comme avec Moshe, c'était l'amour avec rien autour. On est restés ensemble quelques mois, il me désirait. Je prenais son désir pour des sentiments, je me contentais de peu. Quand je me suis retrouvée enceinte pour la 2e fois, ma mère est entrée un matin dans ma chambre. Elle m'a agité un papier sous le nez. « Tu signes ici !» J'ai signé. Je me sentais coupable. Tout ce mal que je lui avais fait, je méritais une bonne leçon, un châtiment qui me marquerait au fer. Je pensais ça. Je pensais avec le cerveau de ma mère. J'avais signé une promesse d'abandon. Cet enfant qui poussait dans mon ventre n'était déjà plus le mien. Il ne serait jamais mon enfant. Je ne l'ai pas attendue. J'ai fait comme si c'était une autre, comme si j'étais une autre. Une mère porteuse qui ne portait personne, qui portait malheur. Toutes ces années, j'étais absente de ma propre vie. Pour votre grand-mère, j'étais une Marie, couche-toi là. Dans mes entrailles pourtant, des mains s'ouvraient qui n'étaient pas les miennes, des doigts transparents, des yeux aveugles. Une petite tête grandissait et un cœur au galop. Les curés, les bonnes sœurs, ils étaient tous à me sermonner. Est-ce que je me rendais compte de la peine que j'infligeais à ma pauvre maman qui bataillait pour joindre les deux bouts? À l'époque, un enfant sans mari, c'était une maladie infamante. J'en avais déjà un, ça n'allait pas recommencer. Le père s'était évanoui dans la nature. Il n'a même jamais su que j'attendais un bébé de lui. C'était ma vie d'être seule, de me débrouiller seule. J'ai capitulé. Je n'ai pas voulu savoir qui avait adopté ma petite, qui me l'avait volée en bonne et due forme, avec la complicité des bons pères. Tous les ans, le 10 janvier, mon cœur se serre comme une noix dans un étau. Je l'appelle dans la nuit. Je la cherche partout. Je crie. Rendez-la-moi, je suis sa maman, sa petite maman. Au dos d'une liste de commission, ma mère avait noté une adresse. Quand l'enfant se présentera, tu iras là, m'avait-elle ordonné d'un regard dégoûté qui me pénétrait jusqu'aux os. Un bloc de glace n'aurait pas été plus froid, ni un couteau plus coupant. C'était écrit au dos d'une vieille liste de courses. Pain, sardines en boîte, javel, papier toilette, mise bas. Je ne valais guère mieux qu'une vache. Je suis partie avec une trousse de toilette et ma brosse à dents. J'ai déplié le papier avec l'adresse, l'écriture sévère de ma mère. L'avoir suffisait à me pétrifier. J'ai lu 49 Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux. J'y suis allée en autostop le 10 janvier 1963. Le froid mordait mon visage et mes cuisses. Je n'avais qu'une robe d'été. Un monsieur s'est arrêté à la sortie de Libourne. Il m'a emmenée sans poser de questions. J'ai senti sa gêne. Il a proposé de me conduire à l'hôpital. J'ai dit non, à cause de l'adresse dans mes mains. J'ai sonné. Une religieuse m'a ouvert. Le grillage de l'entrée déformait son visage. J'ai compris aussitôt où j'étais tombée. Une vision d'abattoir. On m'a installée dans une infirmerie au mur lépreux. C'est là que j'ai mis au monde cet enfant qui n'existait pas. Quand le travail a commencé, la religieuse a retroussé ses manches. Je ne l'ai pas vue se laver les mains avant. La petite fille, je voulais l'appeler Marie. Après l'expulsion, quel mot atroce, je ne me souviens plus de rien. On me l'a enlevée sans la poser sur moi, même une seconde. Quel monstre étais-je pour être privée du contact avec sa chair, pour ne pas lui transmettre ma chaleur. Il n'y a pas eu un mot, pas un au revoir, mon bébé, pas un bonjour. C'était fini. Ta petite, tu ne pensais pas qu'on te l'enlèverait, que des mains oseraient. Tu n'imaginais pas cette violence-là. Tu espérais la serrer contre toi, avoir le temps de lui dire « Ma chérie, je ne peux pas te garder, mais tu seras bien avec une autre maman, avec des parents qui t'aimeront. » Tu aurais ravalé tes larmes, tu lui aurais parlé à l'oreille, tu l'aurais respiré, tu aurais bu son visage pour le graver en toi. Tu aurais caressé ses joues de soie, étreint sa petite bouche. Ceux qui te l'ont enlevé ne s'abaissaient pas de sentiments. Il fallait être efficace, sauver cet enfant du vice, la soustraire à une vie dépravée, avec ta mère pour complice. Que s'est-il passé? De nouveau ta voix saccadée, l'émotion dans la gorge. Pendant l'accouchement, une femme est entrée par une porte dérobée de la chapelle. Elle a un ventre imposant, elle aussi. Une religieuse lui a lancé d'un air extatique. « C'est le grand jour !» La femme a souri. Elle tient une petite valise, un ravissant couffin bordé de dentelles blanches. La religieuse est pleine d'égards. Une future maman, c'est un peu la Sainte Vierge. La sœur lui a dit « Asseyez-vous dans ce fauteuil, ce ne sera pas long. Voulez-vous une tisane? La revue de la paroisse? Nous aidons des villages en Afrique, si vous souhaitez faire un don pour ces pauvres petits. » La femme ne s'est pas assise tout de suite. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Tu ne pourras jamais lui ressembler. Elle a demandé de l'aide à la religieuse pour dénouer sa robe. Un drôle de ventre est apparu, semblable à une carapace de tortue. Un ventre en dur, une coque bombée recouverte d'un molleton douillet. Il paraît que c'est courant en 1963, un faux ventre de grossesse. L'Église est experte en dissimulation. Les mains de la sœur ont retiré délicatement l'objet. Vous devez vous sentir mieux. La jeune femme a hoché la tête. Elle aussi est jeune, 23, 24 ans. Pas une enfant tout de même. Elle a eu un sourire inquiet. Rassurez-vous, l'a encouragée la religieuse. Votre bébé ne va pas tarder. Ça a été un accouchement sans douleur. La douleur a été pour toi, petite maman, rien que pour toi. Le faux ventre s'est changé en vrai bébé, ton bébé. Un miracle, ce nouveau-né tombé du ciel. L'air épanoui de la nouvelle mère tout à coup. Son assurance quand elle a dit « Elle s'appellera Élisabeth ». Marie, la petite Marie, n'existe déjà plus. À cette époque, l'Église trafique à qui mieux les bâtards des filles perdues. Des femmes stériles, une épreuve envoyée par le Seigneur, se font confectionner ses prothèses. Le simulacre est total. Le jour venu, le plus naturellement du monde, elle récupère l'enfant d'une autre qui devient aussitôt le leur, puisque la mère, méprisable pécheresse, a été rejetée. Hosanna au plus haut des cieux. Éric et ses deux frères découvrent un secret que leur mère leur a caché jusqu'à maintenant. Et c'est le début pour le narrateur du roman, Éric, qui écrit donc à la première personne. C'est son récit d'Éric Fotorino. C'est le début d'une quête identitaire qui va le mener sur les traces de sa mère pour essayer de la connaître mieux et de enfin la comprendre. Il part pour Nice, là où il est né, là où il a vécu avec sa mère. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Donc ce premier chapitre, bien entendu, est plein d'émotions, surtout de la part d'Éric. Voilà, il s'agit donc de 17 ans d'Éric Fotorino, un roman publié chez Gallimard en 2018. Merci et à bientôt.